Bien, bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur qui nous comble de ses bienfaits et nous remercions le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous en ce culte de louange, ce culte de célébration. Alors, nous allons continuer le parcours que nous avions commencé la dernière fois. Pour ceux qui nous visitent aujourd'hui ou qui sont là pour la première fois, vous allez tomber comme un cheveu dans la soupe, ne comprenant pas très bien d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va. Mais bon, normalement, vous réussirez à prendre le train en marche. Ça, c'est possible spirituellement, mais dans la réalité, je ne l'ai jamais fait, jamais réussi. À chaque fois, le train s'en va et je n'arrive pas à monter dedans. Bon, donc nous continuons notre parcours sur la question de l'argent. La question de l'argent. Et on va commencer par faire quand même quelques rappels pour ceux qui étaient là. Premièrement, rappeler notre verset de base, le verset sur lequel on s'était arrêté, qui est celui de Matthieu 6, 24, et qui dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Donc, Evelyne en a parlé dans son témoignage et on avait passé du temps justement à s'arrêter sur « Mammon, c'est qui ?»« Mammon, c'est quoi ?» De quoi est-ce qu'on est en train de parler ? Et on avait dit que Mammon, c'est le dieu argent. Donc, Mammon, c'est l'argent lorsqu'il devient un dieu, lorsqu'il devient un idole, lorsqu'il devient quelque chose devant lequel on se prosterne. Lorsque Mammon n'est plus simplement un outil, mais devient un dieu dans les cœurs des gens, dans le monde, c'est ce qu'on appelle mammon, d'accord ? Donc mammon, c'est l'argent lorsqu'il est divinisé. Donc c'est une personnification de la richesse, mais divinisé. Donc on peut dire, pour résumer, que mammon, c'est le dieu argent. Et donc quand on dit que mammon règne dans une vie, ben, ça veut dire qu'une personne a une relation avec l'argent. Et dans cette relation, l'argent est comme son Dieu. L'argent dirige sa vie. L'argent dirige ses paroles, ses actions. Et c'est ça qu'on appelle mammon. Donc mammon, c'est l'argent lorsqu'il est idolâtré. On a beaucoup parlé de l'idolâtrie. C'est l'argent lorsqu'il est idolâtré. L'argent lorsqu'il devient un dieu. L'argent quand on en devient un esclave. Lorsqu'on devient esclave de l'argent, on est sous l'autorité de mammon. On avait dit aussi que mammon, ce n'est pas un démon. Même si, effectivement, le fait que l'argent règne dans le monde, c'est aussi un espace qui permet aux puissances démoniaques de conduire le monde. Mais mammon, ce n'est pas un démon. Mammon, c'est une image, en fait, si vous voulez, pour parler du dieu argent. Et donc, l'argent peut emprisonner les cœurs. C'est ça qu'on avait dit. L'argent peut emprisonner les cœurs. Il peut devenir une idole qui nous a servi. Donc, on en devient son esclave. On devient l'esclave de l'argent. L'argent est une question éminemment spirituelle, on avait dit. Si on voit le verset de Matthieu 6, 24, on nous dit « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent ». Donc en fait, l'argent dans ce verset-là est mis au même niveau que Dieu, parce que c'est ça, mammon. C'est lorsque l'argent est au même niveau que Dieu. Donc on avait dit « L'argent, ce n'est pas juste une question éthique. Ce n'est pas juste une question éthique, l'argent. C'est une question éminemment spirituelle. C'est une question qui ouvre la porte sur notre relation avec Dieu. Ma relation avec l'argent dit quelque chose sur ma relation avec Dieu. Puisqu'on me dit que je ne peux pas en même temps être serviteur de mammon et en même temps être serviteur de Dieu. Donc, notre relation à l'argent dit beaucoup sur notre relation avec Dieu. Et l'amour de l'argent, qu'on appelle la cupidité, donc quand vous voyez dans la Bible la cupidité c'est l'amour de l'argent, est une idolâtrie. Nous dit la Bible. Voilà, alors si vous voulez retenir seulement une image pour comprendre c'est quoi mammon, si vous n'avez toujours pas compris jusque maintenant, retenez ça. Mammon, c'est ça. Donc mammon, c'est l'homme lorsqu'il adore l'argent, lorsqu'il se prosterne devant l'argent. Alors, ça peut être une simple image, mais cette image-là résume à peu près 80% du monde dans lequel nous vivons. Si pas plus. Mammon règne. Et on sait tout ce que mammon peut créer. Donc voilà, cette image-là, faites une photographie verbale, cérébrale, gardez-la, il n'y a que ça à retenir de tout ce qu'on va raconter. Et donc le but, c'est quoi ? C'est que si jamais dans votre vie, dans ma vie, mammon a cette place-là, ben qu'à la fin du parcours, il n'ait plus cette place-là. Et qu'il reprenne sa bonne place. Okay ? Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, they worship, ça veut dire ils adorent. Ils adorent l'argent. Ils se prosternent devant l'argent. Alors, le parcours dans lequel on est, il porte le thème de les signes de la domination de Mammon. À quoi est-ce qu'on voit que Mammon règne quelque part ? À quoi est-ce qu'on voit que Mammon règne dans mon cœur, dans ma vie ? Et on avait dit avant que l'argent est une puissance spirituelle qui peut dominer les cœurs, c'est l'image d'avant. Et à ce moment, c'est Mammon qui domine. Le dieu argent domine alors les mentalités, il domine les structures économiques, les comportements, les relations, l'argent devient idole. L'argent devient idole. Et on avait déjà examiné trois signes de la domination de Mammon, trois caractéristiques lorsqu'on est sous l'autorité de Mammon. Premièrement, avoir l'argent comme Dieu, c'est le plus essentiel évidemment. Deuxièmement, l'accumulation exagérée des richesses. Donc quand on veut amasser de l'argent, c'est un autre signe de la domination de Mammon. Et troisièmement, les inquiétudes liées à l'argent. On avait dit que si notre inquiétude principale dans la vie, c'est l'argent, c'est un signe que l'argent prend peut-être trop de place dans notre vie. Et donc, la grande question que chacun d'entre nous, nous allons nous poser pendant tout ce parcours, j'espère qu'il ne sera pas trop long, c'est quelle est ma relation avec l'argent ? C'est quoi ma relation avec l'argent ? Est-ce que j'aime l'argent ? Est-ce que j'aime l'argent ? Est-ce que l'argent est à la bonne place dans ma vie ? Et donc, est-ce que Dieu règne aussi sur mon portefeuille ? Règne sur mon cœur ? Oui, c'est facile. Règne sur mes pensées ? Oui, c'est facile. Règne mon abri de jardin ? C'est facile. Mais règne dans mon portefeuille, c'est plus compliqué. Est-ce que Dieu règne aussi sur mon portefeuille ? Et donc, chacun d'entre nous est appelé non pas à être un écoutant, un auditeur, oublieux et inactif, mais à se demander, et si c'était moi qui vivais sous l'autorité de l'argent ? Alors on peut être sous la complète domination de Mammon, mais on peut aussi simplement avoir l'argent qui n'est pas à la bonne place dans sa vie, tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'on va voir des signes. Donc c'est une question de base, c'est la question à retenir pour toute cette série, et c'est une question essentielle donc pour notre relation avec Dieu. Mammon crée tout un ensemble de mots. Mammon crée tout un ensemble de mots. La convoitise, vouloir avoir ce que les autres ont. Et vous savez que quand on veut toujours avoir ce que les autres ont, on ne sait pas jouir de ce qu'on a. On ne sait pas se contenter, être joyeux de ce qu'on a. La rivalité, la compétition, les luttes pour le pouvoir, mais aussi le surendettement. Pourquoi est-ce qu'on est dans un monde où il y a tant d'endettement ? C'est parce qu'on veut toujours plus. On veut toujours plus, on s'endette, et finalement on se retrouve dans des situations très compliquées. Travail excessif, c'est un fruit de Mammon auquel on ne pense pas souvent, mais quelqu'un qui travaille sans cesse pour gagner toujours plus, et finalement qui n'a pas de temps pour sa famille, qui n'a pas de temps pour ses enfants, qui n'a pas de temps pour... Voilà, donc c'est aussi, ça peut être aussi. Donc il faut, encore une fois, chacun doit questionner sa propre vie. Il n'y a pas de règle qui soit valable pour tout le monde. Mais il y a des gens qui dans leur vie, se rendent compte que voilà, on est deux. Si jamais on réduit notre temps de travail, on peut réussir à vivre de façon correcte et s'occuper des enfants. Vous voyez, donc on est dans un monde dans lequel on se dit, mais non, si les deux travaillent pas, c'est impossible, on ne peut pas. Et il y a des gens qui disent, si, nous on choisit d'orienter différemment les priorités pour pouvoir donner de la place à la vie de famille. Alors encore une fois, je répète, c'est chacun dans sa propre vie, il n'y a pas de règle pour tout le monde. Mais c'est un signe aussi, quand on veut travailler pour en avoir toujours plus, et quand on ne peut pas simplement remettre les choses à leur place. Les disputes familiales, tant qu'on en veut, les disputes familiales autour de la question de l'argent, tant qu'on en veut. Mais aussi, d'autres choses auxquelles on pense moins, les drogues par exemple. Les gens qui vendent de la drogue, c'est pas juste par amour. La traite d'êtres humains, ça c'est la question de la traite des êtres humains, c'est vraiment une question marrante parce que c'est une question avec laquelle les gens normaux comme vous n'y pensent pas dans la vie de tous les jours. On n'est pas confronté à ça dans la vie de tous les jours. Vous ne pensez pas à ça parfois dans votre lit parce que c'est caché, c'est très obscur. Et pourtant, il y a des réseaux entiers en Belgique et dans d'autres pays de traite des êtres humains. Vous savez qu'il y a des gens même à Charleroi, des dames qui disparaissent du jour au lendemain. Et parfois, une des premières pistes d'enquête, c'est ça, c'est est-ce que la personne n'a pas été attrapée par une bande et amenée dans des pays de l'Est, hein? Et il y en a certains d'entre vous qui ont déjà entendu la chanson de Philippe de Courroux. Voilà, c'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. Par amour de l'argent, on utilise des humains et on les vend pour du sexe ou pour autre chose. L'escroquerie, les vols, mais aussi les meurtres. Ça paraît très bête, mais il y a plein de gens qui meurent pour de l'argent. Vous savez, c'est ça qu'il y a plein de meurtres qui sont commis pour de l'argent. Voilà, donc il y a des grandes causes. Il y a la cause sentimentale qui prend parfois beaucoup de place, mais l'argent aussi prend énormément de place. Donc voilà, tant de disputes pour l'argent, hein, quand nos cœurs deviennent de l'argent, sont attachés à l'argent, tant de personnes qui se séparent, qui s'éloignent à cause de l'argent. L'argent est une question taboue, ça on le sait, et l'argent n'est pas mauvais en soi. Ça, c'est, on a bien insisté là-dessus, le problème c'est la relation qu'on a avec l'argent. L'argent n'est pas le problème, l'argent ce n'est pas quelque chose d'impur, ça dépend de la relation qu'on a. Si l'argent devient Dieu dans ma vie, eh bien là, effectivement, ça devient problématique. Alors, on voit aujourd'hui une quatrième caractéristique de l'amour de l'argent, c'est la réticence au don, qui est en fait à peu près la même chose que celle qu'on a vue avant, mais c'est pas grave. Vous aimez bien, on a le temps. Oui, hein, qu'on a le temps. On n'est pas pressé ce matin. Si vous êtes là, c'est que vous êtes bien reposé. Donc, on a le temps. Donc la réticence au don, le fait de ne pas vouloir donner, c'est aussi un signe de la domination de mammon. C'est Jésus qui dit, en parlant du jeune homme riche, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et vous savez que Jésus lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Et donc, c'était la seule chose qui lui manquait, mais il ne voulait pas se séparer de ses richesses. Hein, il faisait toute la loi. C'est pour montrer, l'épisode du jeune homme riche montre bien qu'on peut très bien être un bon chrétien. Je fais toute la loi, mais oui, j'obéis, je ne fais pas de meurtre, oui, mais quand on te demande ton argent, là, tout de suite, on sent bien que, aïe, il y a quelque chose d'un peu plus pernicieux qui est derrière. Donc la réticence au don, on ne veut pas donner, qui revient à peu près à l'accumulation exagérée des richesses, hein, mais... Donc la réticence à utiliser de l'argent pour le service de Dieu, pour aider les pauvres, pour prendre soin des nôtres, l'égoïsme. Dans des familles très dysfonctionnelles, il y a parfois des gens qui, des pères, des mères, qui réservent un petit morceau de leur paye pour leur famille, mais le reste, le maximum, c'est au bistrot ou ce genre de choses. Donc, les réticences au don. Alors évidemment, Harpagon et sa cassette, vous connaissez tous Molière. Enfin, vous avez connu, en tout cas. Et donc, c'est l'avare de Molière. L'avare de Molière. Et c'est une comédie en 5 actes de septembre 1668. On va y revenir tout de suite.
et à moi aussi. Que de choses assemblées. Je veux jeter un regard sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon honneur. Hé, de quoi est-ce que je parle là? De celui qui m'a dit remis. Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce, si l'on sait une nouvelle de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là parmi vous? Il me regarde tous et ça m'étaille. Vous verrez qu'ils sont pas sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des fourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après.
Voilà, donc une illustration de l'amour de l'argent et de ce qu'on appelle l'avarice. Donc l'avarice, c'est le fait de ne pas vouloir donner. Alors, pas meilleur exemple que de Funès. Donc de Funès amoureux de son argent. Donc la réticence au don, c'est ce qu'on appelle l'avarice. L'avarice. C'est la tendance à ne pas vouloir se séparer de ses biens. Et un proverbe qui dit « L'avare se prive de tout pour ne manquer de rien ». Donc, poussé à son point extrême, l'avarice, c'est je veux garder le plus d'argent pour ne manquer de rien, mais finalement, je ne peux jamais rien avoir, je ne fais jamais rien avec mon argent, je veux garder, je ne veux pas donner. C'est ce qu'on appelle aussi la radinerie. La radinerie. Et donc, dans cette série, s'il y en a parmi vous qui se rendent compte que vous êtes radin, il y a un espoir. Le Saint-Esprit peut vous délivrer de la radinerie. Et c'est sérieux. Dieu peut faire un travail dans nos cœurs pour nous libérer de la radinerie. Alors, la bonne utilisation de l'argent selon la Bible. Donc, selon la Bible, qu'est-ce qu'on est censé faire avec l'argent? Premièrement, l'argent pour assurer notre subsistance. C'est la première vocation de l'argent. Donc, c'est très important. Or, nous recommandons à ceux qui sont tels, et nous les exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ, que travaillant paisiblement, ils mangent leur propre pain. Donc l'argent, la première vocation de l'argent, c'est d'assurer notre subsistance, et que nous puissions vivre, c'est que nous puissions manger, avoir une maison, nous vêtir, ça c'est le but de l'argent avant tout. Un deuxième objectif, utilisation de l'argent, c'est l'argent pour prendre soin des nôtres. Pour prendre soin des nôtres. Et il y a dans 1 Timothée 5, 4 à 8, un verset dans lequel on parle des veuves et de leurs enfants. Et il est dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors le verset 8, beaucoup de gens le connaissent. Si quelqu'un n'a pas soin, on le connaît tous. Mais on oublie souvent que ce verset-là est dit dans un contexte où ça concerne l'argent. Souvent, on utilise ce verset-là pour dire, oui, il faut être avec sa famille, il faut être chez soi, il faut s'occuper de ses enfants. Oui, mais ici, on parle de prendre soin des nôtres avec de l'argent. Et en particulier, on parle des obligations des enfants vis-à-vis de leurs parents, une fois qu'ils sont âgés, le devoir de prendre soin des nôtres. Donc évidemment, c'est vrai pour les enfants vis-à-vis de leurs parents, c'est vrai pour les parents vis-à-vis de leurs enfants, et c'est aussi vrai pour notre famille autour de nous. Donc l'argent nous est donné pour assurer notre subsistance, mais aussi pour prendre soin des nôtres, de ceux qui sont autour de nous. L'argent nous est aussi donné pour aider les pauvres, aussi difficile que ça puisse être. Ils ont, je l'atteste, ils parlent des chrétiens, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc on parle ici de l'argent pour assister les pauvres. Ok ? Alors je sais que dans les églises, il y a toujours bien un ou deux libéraux qui se cachent et qui disent, bibliquement parlant, si on prend le Premier Testament, en particulier le livre de Deutéronome et Lévitique, et si on va jusqu'au fond de la Bible, le fait de prendre soin des pauvres, c'est une exigence de Dieu. D'accord ? Prendre soin des pauvres, ce n'est pas quelque chose qui, dans la Bible, est un problème. Au contraire, ça fait partie, ça doit être normal dans la tête du croyant de prendre soin des pauvres avec son argent. Que son argent serve à ceux qui n'ont pas. Et on dit parfois, ceux qui ont pour ceux qui n'ont pas. D'accord ? Donc, faisons attention à nos réflexions et assurons-nous que c'est toujours biblique ce que nous pensons. Parce qu'on peut penser des choses, et encore une fois, il ne s'agit pas d'influencer les gens, de dire « votez ceci, soyez cela ». Non, mais est-ce que ma façon de penser est bien biblique ? Hein, parce qu'il y a des gens qui disent « oui, mais de toute façon, tous ces chômeurs, ils n'ont qu'à aller tous en enfer ». Oui, 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 ok, mais oh, est-ce que c'est biblique de penser ça ? Est-ce que c'est biblique ? Donc, c'est ça la question. Quelle est ? Est-ce que ma conception des choses est réglée par la Bible ou par ce qu'on m'a appris dans ma famille ou par ce que je pense ? Et donc, l'argent pour aider les pauvres, voilà. Donc, je ne veux pas ici faire un discours pour vous attirer d'un côté ou d'un autre, mais avoir un pays dans lequel on prend soin de ceux qui n'ont pas, au travers de ce qu'on prend sur le salaire, bibliquement, ce n'est pas du tout un problème. Ça fait partie de choses que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions considérer comme étant bibliques. Okay ? Donc, il y a plein de versets sur cette question-là. Donc, faisons attention, quand on réfléchit, est-ce que je suis soumis à l'Écriture ou est-ce que je pense ce que je pense de façon indépendante ? Donc, pour prendre soin des pauvres, voilà, c'est la Bible qui en parle. Si c'était nous qui avons écrit la Bible, on n'aurait pas dit ça, peut-être, mais c'est écrit. Romains 15, « Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Les pauvres, c'est d'abord les pauvres dans la maison de Dieu. L'aide sociale, comme on appelle ça dans l'Église, c'est aussi quelque chose de tout à fait biblique. Okay ? Prendre soin des pauvres dans l'Église, ça commence par là. Et Romains 12, verset 13, « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Pourvoyez aux besoins des saints. » Mais aussi l'argent pour le service de Dieu, évidemment. Vous connaissez l'épisode de la construction du tabernacle pour l'Éternel dans Exode 35. Et là, il est question justement que chacun apporte une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain. Donc on est aussi appelé à donner de l'argent pour le service de Dieu. Et vous vous rappelez que dans cet épisode-là, à un moment donné, Moïse a dû dire aux gens, c'est tout, arrêtez d'apporter parce qu'on n'a plus de place. Donc ça montre un petit peu dans quelle mentalité les croyants devraient être. Une telle propension au don, qu'à un moment donné, on devrait dire, oui, bon, c'est bien gentil, mais on a trop. D'accord ? Alors, l'argent pour le service de Dieu, toujours, Malachie, c'est toujours la même idée. L'argent comme outil pour faire avancer le royaume de Dieu. On a dit la dernière fois que l'argent n'est pas mauvais en soi. L'argent peut aussi être utile pour le royaume de Dieu. Donc l'argent est appelé à être utilisé pour le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, comment est-ce qu'il avance ? Il avance au travers de missionnaires qui annoncent l'Évangile. Il annonce au travers d'œuvres chrétiennes qui s'occupent des personnes en souffrance, en difficulté, pour les chrétiens persécutés, pour les orphelins, pour la diffusion des Bibles, pour les pasteurs enseignants dans les églises. Donc le royaume de Dieu, il avance au travers de toutes ces choses-là. D'accord ? Donc nous participons à l'expansion, à l'extension du royaume de Dieu aussi au travers de notre argent. Même si ce n'est pas nous qui concrètement faisons les choses, nous participons au travers de notre argent. Alors, si on envoie de l'argent à un missionnaire, qui est on ne sait où, et qu'on lui permet de vivre et par là d'annoncer l'Évangile, bien quelque part, l'argent qu'on aura donné à ce missionnaire-là permettra à ce missionnaire de faire avancer le royaume de Dieu. Quand on met de l'argent dans l'offrande à l'église, cet argent-là va être utilisé pour des personnes dans le besoin dans la communauté, pour acheter des bibles, pour s'occuper du bâtiment. Donc l'église est le lieu à partir duquel on est censé travailler à l'extension du royaume de Dieu. Ok ? Raison pour laquelle on ne donne pas pour une personne, on donne pour l'église, pour le royaume de Dieu. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête quand on donne de l'argent pour le service de Dieu, c'est « je veux faire avancer le royaume de Dieu okay. ». Donc hier, il y avait à la convention tout un ensemble d'œuvres qui sont là. Mais quand on donne de l'argent à ces œuvres-là, c'est pour avancer, faire avancer le royaume de Dieu. Alors une magnifique citation de Tozer, si vous la comprenez, vous aurez tout compris, il dit « un objet aussi élémentaire que l'argent » peut être transmuté en trésor éternel. Il peut être converti en nourriture pour les affamés, en vêtements pour les démunis, il peut permettre à un missionnaire de continuer activement à gagner des âmes à la lumière de l'Évangile et ainsi se transformer en devise éternelle. La moindre possession matérielle peut être changée en richesse éternelle. Tout ce qui est donné au Christ est immédiatement frappé d'immortalité. Est-ce que vous comprenez la citation ? À peu près ? Donc, il est en train de dire l'argent qu'on a, il peut être, avoir une vocation qui devient éternelle en fonction de là où on l'investit. L'argent peut sortir du temps et des petites circonstances pour servir à des choses éternelles, pour servir pour la nourriture pour des pauvres, à du vêtement pour les démunis, pour les missionnaires. Donc, l'argent peut se transformer en devise éternelle. C'est pour ça que Jésus disait « Faites-vous des trésors dans les cieux ». Parce que quand vous permettez à un missionnaire de vivre, ben les âmes qu'il gagne, elles ne vont pas s'arrêter dans 10 ans. C'est éternel, le salut d'une âme. C'est pour toujours. Donc, voilà la perspective du don. On donne avec l'idée que notre argent serve à ce qui est durable, à ce qui tient, à ce qui est éternel, et donc on tourne l'orientation de notre argent vers le royaume de Dieu. Investir aussi pour le royaume de Dieu, c'est vivre sur le long terme, pour les choses importantes et durables. L'argent est une valeur puissante mais tellement fragile. L'argent gardé ou mal investi perd toute sa valeur. L'argent investi pour le royaume sert à des œuvres éternelles. Ce qu'on utilise pour le royaume sert à des œuvres éternelles. Cinquième caractéristique de l'amour de l'argent, la confiance dans les richesses. La confiance dans les richesses. Job 31, 24, il dit « Si j'ai mis ma confiance dans l'or, si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit « Alors, tu es mon espoir », si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises. » Ça, c'est quand on se confie dans l'argent. C'est mettre dans l'or ma confiance, mon espoir, se réjouir de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses qu'on a acquises. Ou encore un autre verset, en parlant de ceux qui ne craignent pas l'Éternel, « Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leurs grandes richesses, avec des S, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Ils ont confiance en leur bien. C'est ça, je confie ma vie, j'ai confiance. Comme j'ai de l'argent, tout va bien, j'ai de l'argent, donc je suis tranquille. Quand je n'ai pas d'argent, je suis inquiet. La confiance dans l'argent, c'est un autre signe de la domination de Mammon. Et donc, il y a des paroles adressées aux riches. Encore une fois, comme on vient de le voir, être riche dans la Bible, ce n'est pas un problème. Contrairement à ce qu'on entend parfois. Les chrétiens riches, ce n'est pas un problème qu'un chrétien soit riche. Ce n'est pas un problème d'avoir beaucoup d'argent. Bon, on n'a pas de ministre dans l'Église, mais imaginons qu'on en ait un. Je deviendrai son copain, pour commencer. C'est la première chose. Mais à part ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais avec mon argent? Est-ce que je suis riche pour moi ou pour Dieu? Est-ce que ma richesse est investi pour moi ou pour des valeurs éternelles. Et c'est Paul qui disait à Timothée, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne en abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. » Recommande-leur de ne pas placer leur confiance dans leur richesse, mais de placer leur confiance en Dieu qui donne toutes choses. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Donc c'est ça, être riche pour Dieu, ça peut être aussi ça. C'est, j'ai de l'argent, j'en ai beaucoup, et je ne le garde pas pour moi, mais je l'investis pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Donc attention à la confiance dans les richesses. Et ça se voit bien, les gens qui ont confiance dans les richesses, mais leur paix dépend de leur compte en banque. Quand j'ai un bon compte en banque, tout va bien, tranquille. À la fin de ce parcours, on verra que bibliquement, on l'a déjà vu, que bibliquement, l'argent vient de Dieu. Je sais que les gens qui travaillent, c'est compliqué. à se mettre ça dans la tête, parce qu'il y a un lien direct entre mon travail et mon argent. Si je travaille, il y a de l'argent qui tombe. Si je ne travaille pas, il n'y a pas d'argent. Mais bibliquement parlant, l'argent vient de Dieu. La Bible dit « l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel ». Donc, quel que soit l'état dans lequel on est, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, considérer chaque argent que nous avons comme un don de Dieu. Comme un don de Dieu. Car il est l'Éternel qui pourvoit. L'Éternel qui pourvoit. Dans la Bible, les richesses sont présentées de diverses façons. Premièrement, elles sont présentées comme étant fugitives, passagères. Les richesses ne sont pas éternelles, elles sont fugitives, elles sont passagères, elles passent. Ok ? Elles sont corruptibles, elles sont soumises à la rouille, aux mythes et aux cambrioleurs. Ça veut dire que l'argent, ce n'est pas quelque chose qui est éternel. Ça peut être volé, ça peut se perdre, ça peut être détruit. Et on connaît des gens qui étaient dans des positions où ils gagnaient beaucoup et du jour au lendemain, voilà. Si on gagne beaucoup d'argent à cause d'un très bon travail, ben le travail, ce n'est pas éternel. On peut aussi être viré, on peut aussi... Donc, attention, l'argent est corruptible. L'argent est corruptible. L'argent est périssable. L'argent peut périr, peut disparaître, peut être détruit. Les richesses sont incertaines, elles sont instables. On connaît la crise des subprimes en 2008, ou je ne sais plus quand. Donc, une fois que la bourse commence à monter, mais voilà. Donc, c'est marrant, non ? Non, bon, ça, mais ça veut dire que, en fonction de ce qui se passe dans le monde, vous pouvez vite devenir pauvre. Hein. Vous savez ça ou pas ? La richesse, c'est pas un truc. Les richesses sont insatisfaisantes, elles ne peuvent pas combler l'âme. Les richesses sont trompeuses. Les richesses sont spirituellement dangereuses. Pourquoi ? Matthieu 6, 24. Parce qu'elles peuvent devenir notre Dieu. Voilà pourquoi elles sont spirituellement dangereuses. Les richesses sont inutiles au jour du jugement. Vous le saviez, ça ? Donc, Dieu ne se laissera pas acheter le jour du jugement en disant « Celui-là, quand même, il avait un bel écran plasma, il peut rentrer. » Inutile au jour du jugement. C'est Rockefeller qui disait « J'ai gagné des millions, mais ils ne m'ont pas apporté le bonheur. » Alors, on connaît aussi la citation « L'argent ne fait pas le bonheur ». Bon, il faut la mettre entre parenthèses parce que c'est vrai que dans ce monde, ce n'est pas tout à fait vrai. Bon, on peut avoir beaucoup de bonheur en ayant beaucoup d'argent. Hein. Bon, il faut... Et d'ailleurs, quand vous témoignez à des non-chrétiens, faites attention à ce que vous dites. Hein, parce qu'il y a des chrétiens, ils ne se rendent pas compte. Ils vivent dans une autre réalité. Plus on a de l'argent, plus on est bien sur terre. Hein. Ça, c'est une réalité aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que ça comble l'âme, que ça donne la joie, que ça donne le bonheur. Mais il y a un confort dans lequel on arrive qui procure de la joie. Autre parenthèse, ne dites pas non plus aux non-croyants que c'est impossible d'être heureux sans avoir Jésus. Hein. Sur terre, c'est faux. Sur terre, on peut être heureux sans avoir Jésus. Donc, si vous vivez dans les plaisirs du monde, ben, oui, on peut aussi être heureux. Donc, attention, on est sur terre, hein, là, on n'est pas encore... voilà. Donc, sur terre, l'argent peut donner beaucoup de bonheur. Mais Rockefeller, lui, disait, ça ne m'a pas apporté le bonheur. L'obsession pour l'argent, c'est un autre signe de la domination de Mammon. C'est-à-dire avoir un cœur orienté vers l'argent. Un cœur orienté vers l'argent, tourné vers l'argent. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Vous avez déjà certainement expérimenté des moments où vous êtes là dans un lieu, par exemple à l'église ou ailleurs, et où vous avez laissé quelque chose quelque part. Et vous vous dites, aïe, 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 et vous n'arrivez pas à être ici parce que vous pensez à la chose que vous avez laissée. Hein, vous vous dites, ah, j'ai laissé le fer à repasser, brancher, c'est pas possible. Ou alors j'ai garé ma voiture mal, elle va se faire... mon ordinateur. Donc, en fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand on est la chose à laquelle on est attaché, elle tient à notre cœur. Si je suis ici, mais que ce à quoi je suis attaché n'est pas ici, je ne saurais pas être pleinement ici. Je serai ici, mais mon cœur sera ailleurs. Hein? Et donc, vous connaissez l'histoire de la femme de Lot, qui était en train de s'enfuir et qui s'est retournée. Et alors, si vous lisez bien le texte, vous allez voir qu'elle a reçu la même condamnation que ceux qui étaient encore à Sodome et Gomorre. Donc je peux être ici, mais mon cœur peut être ailleurs. Et donc je vis la réalité d'ailleurs. D'accord ? Donc, il faut faire attention. Notre cœur, pour Dieu, notre cœur est... c'est Jésus qui dit, celui qui regarde une femme en la convoitant a déjà commis l'adultère avec elle. Donc le cœur oriente là où nous sommes. Nous ne sommes pas où nous sommes. Nous sommes là où est notre cœur dans la Bible. Vers quoi est-ce que mon cœur est orienté? Donc un cœur enchaîné, emparé par l'intérêt pour les richesses. Un cœur qui tellement obsédé pour l'argent. Mais aussi, plus bêtement, ça peut se voir concrètement par des disputes, des discussions, des conflits autour de l'argent. Quand on voit dans un lieu que l'argent prend tellement de place, on se dispute, on se met en conflit autour de l'argent. Mais aussi, des paroles toujours autour de l'argent. Hein, on parle tout le temps d'argent, c'est le seul sujet. Il y a des gens qui ne parlent que d'argent. Moi, je connais des gens, vous pouvez parler de tout et n'importe quoi, on va toujours arriver à l'argent. Toujours. Ça, c'est un cœur obsédé par l'argent. Psaume 62, verset 10, « Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Donc, ça, c'est l'attachement de cœur aux richesses qui est aussi un signe de la domination de mammon. Donc, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Mais aussi, Hébreux 13, verset 5, dans une version amplifiée, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Qu'est-ce qui inspire ma conduite? Est-ce que l'amour de l'argent inspire ma conduite? Alors, Jésus, dans Matthieu 6, nous donne deux exemples, ou plutôt deux images, pour nous montrer l'impact d'un cœur orienté vers l'argent. Donc, il vient de parler de la question de l'argent, et il parle de l'œil. De l'œil. Bon, moi, j'ai des beaux yeux, paraît-il. venant de qui ça vient, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'était... Mais en tout cas, je le crois pour aujourd'hui. Mais il n'y a pas que moi qui ai des beaux yeux, c'est ça qui est bien. Bon, soit. Mais restez sérieux, s'il vous plaît. Concentrons-nous. Alors, Matthieu 6, 22 à 23, il dit... L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes tes ténèbres? Et donc il vient de parler des richesses et il dit, si notre œil est dans la lumière, tout notre être est dans la lumière, puisqu'il est la lampe de notre corps, mais si notre œil est dans les ténèbres, tout notre corps sera dans les ténèbres. Et qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus, lorsqu'il parle d'avoir un œil en bon état ou un œil en mauvais état? Un œil pur, c'est un œil sans partage. C'est un œil sans arrière-pensée, un œil généreux. C'est lorsque les yeux purs sont des yeux qui se concentrent sur le Seigneur. Les yeux purs, c'est celui qui regarde vers le Seigneur, qui est occupé au Seigneur, qui a un œil concentré vers le Seigneur. Ok? Ça, c'est celui qui a un œil pur. Celui qui a un œil mauvais, c'est celui qui ne cesse d'être obnubilé par les biens matériels. D'accord? Celui qui a un œil mauvais, c'est celui qui est constamment l'œil tourné vers les biens matériels. Celui qui est partagé. Donc c'est ça, en fait. Je peux avoir un œil bon, un œil pur, si je regarde vers Dieu, mais si mon œil est en même temps vers Dieu et en même temps vers les richesses, si mon œil est obnubilé par l'argent, si je suis tout le temps en train de m'occuper, de regarder vers l'argent, alors là, mon œil est un œil mauvais, un œil impur, un œil qui me met dans l'obscurité. Et qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit un œil dans l'obscurité? C'est que l'attachement aux richesses matérielles produit un aveuglement. Donc quand j'ai un œil mauvais, je suis aveuglé et empêche d'avoir une juste perception de la réalité et de son prochain. Donc l'amour de l'argent, le fait d'être obnubilé par l'argent, nous empêche d'avoir des relations correctes et ça déforme la réalité. Ça déforme la réalité et ça nous empêche d'avoir une juste perception des autres et du monde. Donc, pour revenir pour ceux qui n'auraient pas compris l'image de Jésus, vous lirez Matthieu 6 et vous comprendrez mieux le contexte dans lequel il le dit. Un œil mauvais, c'est un œil malade, c'est un œil double. Un œil malade, un œil mauvais, un œil double, c'est un œil qui regarde deux choses à la fois. C'est un œil qui regarde en même temps les richesses et qui veut en même temps regarder Dieu. Un œil qui ne sait pas se focaliser sur Dieu. Un œil simple, un œil loyal, un œil pur, c'est un regard clair, tourné vers Dieu, qui illumine notre vie et qui rend notre chemin droit. Donc je peux avoir un œil pur, qui met tout mon être dans la pureté, mais si mon œil est tourné vers l'argent, obnubilé vers l'argent, mon être est dans l'obscurité. Attachement au plaisir, ce sera pour une autre fois. Il n'est que 5, alors c'est pour ça que je vais prendre le temps de lire Matthieu 6, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui ne voient pas ce qu'on veut dire. Alors, et on finira par là. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a un frère qui est venu et qui a dépassé, vous n'avez rien dit, donc maintenant. Matthieu 6, à partir du verset 19. Matthieu 6, à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes tes ténèbres ? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Donc vous voyez que cette question de l'œil, elle est insérée dans un passage où on parle des richesses. Donc juste avant, on parle des richesses, juste après, on parle des richesses. Donc l'œil est en lien avec cela. Que Dieu nous aide à examiner notre relation avec l'argent, à regarder dans nos vies si l'argent est à la bonne place ou si nous sommes sous la domination de Mammon, qu'il purifie nos cœurs, qu'il purifie nos pensées, qu'il purifie notre vie pour que nous puissions vivre une vie qui lui plaît. Amen.